Bonjour à tous, merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. J'espère que tout se passe bien pour vous. On a beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui. On peut quasiment dire que c'est un spécial corps. Corps, sexualité, rapport homme-femme, certainement nos trois sujets d'aujourd'hui vont toucher ce grand thème-là. On va faire en première heure un rappel de notre grand sondage Somme 98.5 FM sur l'après hashtag moi aussi, parce que toujours des façons de lire les sondages différemment que les autres. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont très optimistes à la suite de notre sondage. Très optimistes. Tout le monde dit, mon Dieu, c'est le fun. Tout le monde a entendu parler du hashtag, moi aussi. Ce qui est très bien, d'ailleurs. C'est très bien, oui. Une majorité de gens savent ce que c'est. Et là où les hommes et les femmes s'entendent, c'est pour dire que des comportements sexuels déplacés devaient et doivent encore être dénoncés. Que le problème du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles, c'est pire encore que ce que vous pensiez. Alors, au moins, il y a eu une espèce de... On a levé le tapis sous de la poussière, des motons qui traînaient depuis longtemps. Là où je vous dis que moi, je ne suis pas si optimiste que ça, c'est que quand je regarde les questions qu'on a posées, d'ailleurs, je dois dire aussi que l'actualité a été le magazine qui a initié tout ça, je regarde les questions puis je me dis, je ne suis pas sûre qu'on a avancé tant que ça. Il y a quand même 40 % des gars, là je vous parle, messieurs, qui pensent que le mouvement exagère l'ampleur du problème, qu'on donne trop d'importance à des incidents isolés. Il y a aussi 65 % des hommes qui pensent que ce mouvement risque de détruire la réputation de personnes qui n'ont rien à se reprocher. 65 %, c'est quand même beaucoup de monde. Il y a aussi un homme sur trois qui pense que c'est normal de douter de personnes qui attendent plusieurs années avant de dénoncer. Ça veut dire, c'est la femme qui dénonce. Prenons l'exemple pour pas être trop sur notre nombril. Regardons ce qui se passe aux États-Unis. Regardez, le docteur Ford et le juge Kavanaugh, c'est un beau cas de ça. Et même Melania Trump, qui ne sait plus trop où se mettre, j'avoue qu'à sa place, je serais gênée, est obligée, là, aujourd'hui, hier, en fait, elle demandait des preuves tangibles, tout en disant, je trouve ça épouvantable, les agressions sexuelles. Avec un mari comme le sien, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise en même temps? Demander des preuves tangibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui s'est faite agresser, mais des années plus tard... Tu peux pas revenir parce qu'on va douter de ton témoignage. Ça veut dire, fille, fais-le tout de suite, sinon, bonne chance. Nous allons parler de tout ça avec, d'abord, je vous disais que l'actualité a initié ce sondage. Et c'est surtout Noémie Mercier, qui est journaliste au magazine, qui a eu l'idée de le faire. Merci, Noémie, d'être avec nous.
Ça me fait plaisir. Merci de t'avoir à l'émission. Merci, Isabelle.
On est dans les initiatrices ici. Monique Néron, qui est journaliste chez nous aux affaires judiciaires à l'émission de mon collègue Paul Arcand. Monique, j'apprécie beaucoup. Merci d'être là. Il faut rappeler que vous aviez, avec Émilie Perrault l'année dernière, c'est vous qui avez initié ça chez nous aussi, ce mouvement... Et surtout toute l'histoire autour de l'affaire Roson.
Bien sûr.
Je rappelle aussi que vous avez reçu une mention spéciale pour le prix Michener en journalisme. Bravo
oui,
encore.
C'était un très grand honneur qui revenait
prix très
en...
prestigieux.
Oui, oui, oui,
qui
oui,
revenait
vraiment.
En grande partie, bien entendu, à ces femmes qui ont eu le courage de dénoncer tout à fait.
Dont Patricia Tulane, mon invitée. Merci d'être là, Patricia.
Bonjour, Isabelle.
Qui fait partie donc de ce groupe. C'est représentante désignée des courageuses. Je te présente comme ça.
Oui, mais en même temps, je viens ici en mon nom personnel. Je ne suis pas mandatée par les courageuses aujourd'hui.
D'accord. Qui sont les courageuses? Rappelle-nous, Patricia.
Mais c'est un groupe de femmes qui a créé un collectif pour intenter une poursuite au civil contre Gilbert Roson.
Voilà. Avec nous également, Caroline Lamar. Caroline Lamar était secrétaire trésorière adjointe à la municipalité de Baie-Trinité en mars 2011 jusqu'en juin 2013. C'est peut-être une histoire que vous avez vue dans l'actualité. Madame Lamar a subi des agressions à plusieurs reprises pendant plusieurs années, pendant ces deux années-là. Les pires agressions ont été les deux premières. Et qui était son agresseur? C'était le maire de la municipalité. On peut en parler ce matin parce que, en fait, le maire Denis Lejeune a eu droit à un procès. Il a été reconnu coupable de deux agressions. Comme souvent, il n'y a pas eu c'est toujours, je vais le dire comme ça. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas eu grand-chose. Probation de 2 ans, 120 heures de travaux communautaires et 4 000 $ à verser au centre d'aide aux victimes d'actes criminels de la Côte-Nord. Pour avoir agressé une femme et d'avoir été trouvée donc coupable de ces agressions. Caroline Lamar est avec nous. Bonjour, Madame Lamar.
Bonjour.
Je pense que
ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Ben, exactement. Ben, pareil pour nous. Ça fait déjà 5 ans que vous avez quitté la municipalité. Vous avez eu le courage de dénoncer votre agresseur.
J'ai quitté, ça fait juste 1 an que j'ai réussi à quitter la municipalité.
Oui, bon, racontez-nous un peu.
Okay, ouais. Ben, j'ai été pris au travers de la saga pour réclamer mes droits de travail. Parce que c'était quand même quelqu'un qui était autrement dit, c'est lui qui avait le pouvoir un peu sur notre travail.
Oui, tout à fait, c'est le patron. Ouais, ouais.
C'était pas quelque chose à l'interne. J'avais été tout de suite dénoncée à l'externe parce que je me doutais que ça allait brasser. Puis effectivement, j'ai eu affaire à des quelqu'un au pouvoir, c'est parfois quelque chose d'entreprendre quelque chose de même, mais j'ai eu beaucoup d'appui de la part de la province puis du Parlement aussi.
Ouais, je disais que vous aviez quitté la municipalité. En fait, vous avez quitté votre travail il y a 5 ans, mais vous avez déménagé l'année dernière.
Oui, c'est ça.
Parce que c'était plus possible pour vous d'habiter dans cette ville que vous aviez un chèque, un stress post-traumatique depuis, je pense, Caroline.
Oui, au mois de mai, j'ai essayé de retourner sur le milieu du travail, puis je me suis rendu compte que mes séquelles sont pas mal plus présentes, parce que je l'ai vécu sur les milieux du travail. Ça fait que pour moi, aujourd'hui, je dois faire face à ça, puis accepter mes nouvelles conditions. Mais sauf que, regarde, il y a eu un certain processus où ce que je me suis battue pour faire changer la loi pour plus que ça arrive, ça. Que les victimes se retrouvent un peu dans le fossé, qu'on n'avait pas le droit, on n'avait pas des droits. Eux, il y avait plus de droits, puis c'est des personnes au pouvoir, puis c'est épeurant. Ouais. Puis souvent, ça se passe à l'interne, puis regarde, ça passe en dessous du tapis, comme vous dites, là. Mm. Puis souvent, la victime est comme tassée. Mais j'ai été chanceuse parce que, je veux pas, c'était dans le domaine municipal, ça fait qu'il n'y avait pas le choix de répondre à ça. Le Parlement n'a pas eu le choix de répondre.
Avez-vous l'impression, Caroline Lamarque, un an après tout ce qu'on a dit sur ce hashtag, moi aussi, dans la foulée du MeToo américain, est-ce que vous avez l'impression, effectivement, qu'on a débroussaillé, qu'on a avancé, qu'on a changé les mentalités?
Ben moi, ça fait vraiment un an là, que je suis vraiment en retrait de tout ça. Mais je dis que moi, quand mon histoire a sorti à moi, ça a donné de l'espoir. Ça a donné de l'espoir aux gens autour parce que quand que t'as ton patron ou quelque chose de même, c'est la dernière personne que tu voudrais dénoncer. Un collègue, OK, peut-être à l'interne, il peut se faire de quoi, mais il va avoir de l'intimidation. Mm-hmm. Mais quand c'est ton patron, là, puis surtout que tout le monde l'appuie, toute l'administration l'appuie, ben là, on s'en sort un peu. Mm-hmm. Puis dans un petit village où, tu sais, que ils sont pas habitués, tu sais, ça a tout le temps été des histoires de famille cachées, puis et là, il débarque quelqu'un qui dénonce.
Ouais.
J'ai bouleversé le village.
Le village de 450 habitants de Bétrinité. Oh, oui. En même temps, moi, dans votre histoire, ce qui m'a toujours étonnée, c'est que le maire, le jeune, il a démissionné seulement en août 2017 de son poste. Ça veut dire que pendant 4 ans, c'est ça, là?
Oui. Ben, dans le fond, lorsqu'il a eu son verdict puis qu'il est resté en poste, c'est là où vraiment ça a fait une grosse vague. Là. Tu sais, tout le monde a embarqué puis il dit, il faut qu'on fasse de quoi? On s'est présenté au Parlement pour faire changer la loi.
Ouais. Mais il avait été reconnu coupable en 2015 et il a continué de siéger comme maire. Je veux dire, chose qui marche pas, là.
Ce qui faisait que moi, j'avais pas le droit de retourner à mon poste.
Imaginez.
Lui, il avait prévu, on m'avait dit que ça serait impossible que je réussirais de partir puis d'abandonner mon droit de travail. Mais j'ai cru bon tenir puis j'ai avancé, mais j'ai eu beaucoup d'appui, mais il n'y a rien d'impossible.
Fait que pour vous, c'est une victoire. Pour vous, c'est une victoire, Caroline, parce qu'il a été reconnu coupable. Mais il n'y a pas une partie de vous qui dit, finalement, j'essaie de me mettre à votre place, qui dit, ce gars-là, il a quand même, vous avez plus de job. Lui, il a continué de travailler quand même comme maire. Il a eu des appuis. C'est une probation de 2 ans. On s'entend qu'une probation, là, c'est une petite claque, puis refait le pu. 120 heures de travail communautaire pour un maire, ça devrait même pas être une obligation. Verser 4 000 $ à un centre d'aide aux victimes d'actes criminels, on s'entend que c'est la moindre des choses. Fait que, moi, je regarde. Comment vous voyez ça, vous, Caroline?
Parce que c'est fréquent. C'est toujours la première à venir dénoncer. Tu sais, admettons que les femmes, là, on n'est jamais tout seul, OK? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres avant. Puis il y en a d'autres qui ont trop peur. Ce qu'on comprend pas en tant que victime, là, c'est que si on se rassemble et qu'on dénonce en même temps, ben moi, j'aurais pas eu de l'air folle en avant du juge. J'aurais pas eu de l'air de la fille qui débarque du jour au lendemain et qui dit « cet homme-là, c'est un agresseur ».
Vous, vous avez eu l'air folle, vous dites? Les gens vous ont regardé?
Ben, tu sais, c'est, tu te débroussailles de le chemin, c'est que t'es pas la première, mais les autres ont peur. Fait qu'ils embarquent pas. Fait que toi, t'es la première à débroussailler le chemin. C'est sûr que la première sentence est faible. Mm-hmm. Tu sais, c'est, il faut tout le temps qu'il y en ait une qui prend les devants. Tu sais, mais par la suite, tu sais, j'ai vu des cas où ce que les victimes se mettent toutes ensemble et se disent, regarde, là, le juge, il a le portrait parfait, là, de cet homme-là. Ouais. C'est ça, mais tu peux pas les forcer à dénoncer. Chacun a son. Fait que dans le fond, c'est toi qui est au front. Ouais. Qui est au front. Mais j'avais pas le choix. C'était ça, c'était rendu ça, là. Je pouvais plus reculer.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, Caroline?
Ben, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment fait. Moi, c'est du passé. Qu'est-ce qui arrive de lui? Qu'est-ce qui en était? Puis c'est du passé. J'ai déménagé, j'ai trouvé une place où ce que je pouvais travailler sur moi-même parce que je vais avoir beaucoup de travail, ces séquelles-là, je vais les avoir à vie. Il n'y a aucune sentence qui est capable de pouvoir guérir ces blessures-là. Quand cette barrière-là déclenche, regarde, je ne suis pas la seule, on est plusieurs à vivre ça, c'est des cicatrices profondes. Vu que c'était relié au milieu du travail, ben ça rend la chose un peu plus difficile parce que quand on retourne sur les lieux, puis vu que c'était à répétition, ben c'est là qu'il y a un problème. Mais tu sais, regarde, aujourd'hui, là, je pense à moi. Ouais. J'ai fait mon bout, je pense, pour le Québec, là, d'avoir changé la loi, là.
Merci.
J'ai fait mon bout. Tu sais, regarde, là, c'est le temps que vraiment je prenne un recul, puis qu'est-ce qui arrivera, qu'est-ce qui arrivera. Moi, je sais, j'ai conscience que quand c'est les premières dénonciations, c'est normal, les sentences, ils sont bons.
Merci beaucoup, Caroline Lamarre. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, d'être venue sur cette époque assez douloureuse de votre vie. Merci beaucoup. Monique Néron, oui, qui a suivi cette histoire de très près.
Elle fait preuve beaucoup d'humilité ce matin, Madame Lamarre, parce qu'elle a été très stigmatisée dans sa communauté. Oui. Monsieur le maire a été réélu alors qu'il était sous le coup d'accusations d'agression sexuelle et même effectivement après sa condamnation, parce qu'il avait fait appel du verdict, continuait de siéger et il y avait un interdit de contact entre la victime alléguée et l'accusé, mais c'est elle qui pouvait pas se présenter au travail. Il y a eu un nombre incalculable d'injustices dans cette affaire-là et on est petit village de 400 quelques âmes, essayez de vendre votre maison avec les enfants et tout ça. C'est pour ça qu'elle vient juste de quitter Mme Lamarre, parce qu'elle a eu énormément de difficultés à vendre sa résidence. Et c'est elle qui était pointée du doigt. On avait l'impression de se retrouver là à l'époque où on disait ben, « c'est de ta faute, tu détruis la réputation de quelqu'un », alors que monsieur était reconnu coupable, et deux fois plutôt qu'une.
C'était il n'y a pas si longtemps, ça, hein, Noémie?
Moi, là, ça me touche vraiment, ce témoignage-là. Puis je trouve que ça illustre parfaitement les failles du système de justice, ou du moins les raisons pour lesquelles certaines victimes renoncent à porter plainte. Parce que le coût humain de traverser le système de justice est extrêmement élevé par rapport aux conséquences éventuelles pour l'accusé.
Puis, elle dit « je suis allée au front ».
Exact. Oui. C'est des guerrières, ces femmes-là. Hein. Moi, je le vois vraiment comme ça, je les vois comme des héroïnes. Et le déséquilibre entre les séquelles pour elle qu'elle va porter le restant de ses jours et les séquelles pour l'accusé. Donc, quand on voyait, comme tu le soulignais dans le sondage, que les gens sont sceptiques par rapport aux victimes qui utilisent les réseaux sociaux ou qui attendent plusieurs années avant de porter plainte, ben, je pense qu'il faut vraiment rappeler aux gens pourquoi est-ce qu'on passe par les réseaux sociaux ou par les médias, pourquoi on hésite à aller devant l'appareil judiciaire. C'est parce que c'est pas très hospitalier, là.
Non, tout à fait. Et puis dans le sondage, l'actualité somme 98.5, la question au cours de la dernière année, quelles mesures votre employeur a-t-il prises pour composer avec le harcèlement sexuel en milieu de travail ou pour le prévenir? Nous, ici, on a un petit dépliant, puis... mieux correct. L'UDA, hier, publiait un code anti-harcèlement. Je ne sais pas si tu l'as vu, Patricia.
Absolument.
Mais dans le sondage, il y a quand même 41% des gens qui disent « mon employeur n'a pris aucune mesure spécifique ». 41%!
Ouais. Puis il y a un autre 15% qui n'ont pas su répondre à la question.
Ouais.
Donc, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des travailleurs au Québec qui n'ont rien remarqué de neuf, de particulier en matière de lutte au harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Puis ceux qui ont remarqué quelque chose, bien, dans la plupart des cas, ce qui a été fait, c'est simplement rappeler les mesures qui existaient. Donc, il n'y a pas eu... T'sais, moi, ça me surprend quand même. Il aurait pu y avoir des nouvelles ressources, des nouvelles politiques, du soutien, quelque chose pour renforcer les mécanismes d'arbitrage des plaintes en milieu de travail, mais... il semble que ça a été c'est plus d'apathie qu'autre chose.
Écoute, il y a 40, je reviens à ma stat, 40 % des hommes considèrent que le mouvement a exagéré l'ampleur du phénomène du harcèlement sexuel.
Je vous inviterais à aller réécouter les chroniques que j'ai faites depuis 5 ans, le nombre d'histoires d'horreur de femmes et d'hommes qui ont passé à travers le système, qui ont soit attendu. Et ce n'est, faut-il le rappeler, la pointe de l'iceberg, parce qu'il y a tellement peu de gens qui dénoncent pour toutes sortes de raisons. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut continuer d'en parler et de l'expliquer, ça, le pourquoi les gens vont pas de l'avant. Voilà.
Je t'écoutais d'ailleurs ce matin, puis on en parle également dans les journaux, comme quoi il y a plus de plaintes, c'est sûr, il y a plus de dénonciations.
Un an pour démarrer une enquête.
Voilà.
Et on appelle au bout d'un an, êtes-vous toujours intéressé à porter plainte pour un acte criminel qui remonte à il y a 30 ans?
Et justement, Patricia, après la pause, va nous dire où en sont les courageux. Je sais que vous êtes en démarche, donc on peut pas trop dire, mais tu pourras au moins nous dire ce que tu sais. Vous allez voir que la réponse va être courte, mais quand même. Et je fais appel à vous, messieurs, aussi. Vous sentez-vous interpellé par les données qu'on a dans ce sondage qui a été en deux parties, mais qui depuis hier on en parle. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez étonnant malgré tout dans le fait qu'on pense encore. Tu sais, par exemple, il y a à peu près 10-11% des gens qui pensent que ça peut devenir un outil de vengeance.
Oui.
Et j'ai entendu ça là. Il y a pas si longtemps, une chroniqueuse disait ça. Attention, parce que bien des filles pourraient s'en servir comme d'un outil de vengeance. T'es pas à face du gars. il y a fait quelque chose que t'as pas plu. Tiens, tu vas dire qu'il t'a agressé sexuellement. Mmh. Sérieusement. Sérieusement.
Faut manquer d'empathie un petit peu.
Aïe. C'est à moins de 1% le pourcentage de fausses plaintes. Faut pas l'oublier aussi, là. Ça fait 99% de gens qui disent la vérité statistiquement. Fait qu'on s'entend-tu que c'est vraiment pas la norme que d'inventer quelque chose du genre. Et généralement, c'est dépisté assez rapidement.
Ouais. Et puis, je pense que si ces gens-là passaient à travers le processus judiciaire...
C'est tellement de troubles. Faut vraiment chercher le trouble.
Non, ils pourraient pas dire la même chose.
514-790-9850. Et sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. La question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous pensez qu'avec tout ça, finalement, ça a compliqué les rapports hommes-femmes? Et je pense que poser la question, c'est quasiment y répondre. Mais j'ai hâte de vous entendre là-dessus. À tout de suite. Je suis en compagnie donc de mes invités que je vous ai présentés tout à l'heure. Monique Néron, bien sûr, qui est avec nous. Patricia Tulane, Noémie Mercier, qui a écrit tout un article intéressant que je vous recommande dans l'actualité, donc où on parle du Québec après le hashtag Moi aussi. Donc, un grand sondage qui a été fait, Somme l'actualité 98.5, qui nous parle du chemin parcouru. Puis nous, ce matin, ben on est dans les zones d'ombre, hein, parce qu'on était beaucoup dans l'espoir hier. Puis moi, ce matin, je me tente de dire... que finalement, il y a encore beaucoup de gens qui sont très confus, Noémie, ne serait-ce que par rapport au consentement. Ça n'a pas l'air clair pour tout le monde.
Non, c'est pas clair. Puis d'ailleurs, c'est ça qu'on a essayé de mesurer un an plus tard. Est-ce que, quand est-ce qu'il faut aller recueillir un consentement explicite avec des mots? Est-ce que les hommes et les femmes comprennent la même chose des signaux qu'ils s'envoient? Et les taux de non-réponse sont très élevés. Donc, ça veut dire que sur ces questions-là, les gens ne savaient pas quoi dire. Il y a encore de la confusion. Il y a une situation en particulier qui est, je dirais, préoccupante, où les hommes et les femmes ne comprennent pas du tout la même affaire. Dans le cas du sextage, si quelqu'un vous envoie une photo sexuellement explicite, est-ce que ça veut dire oui ou non qu'il veut coucher avec vous, puis vous n'avez même pas besoin de le vérifier? Bien, il y a deux fois plus d'hommes que de femmes qui considèrent que une photo sexuellement explicite, c'est une invitation à une relation sexuelle, puis on n'a pas besoin de vérifier le consentement verbalement avant de, tu sais, tenter une approche. Donc, encore là, les taux de non-réponse sont élevés, fait que ça veut dire qu'on n'est pas certain, mais je dirais que, tu sais, dans le doute, vérifions.
Hein? D'abord, dans l'idée d'envoyer une photo de ton pénis à quelqu'un, moi je dirais, c'est ça c'est personnel, mais je dirais fais pas ça.
Non.
Mais bon, ça c'est vraiment chacun pour soi visiblement. Je voulais entendre Patricia sur le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure de Caroline Lamarre et aussi sur le fait que bon. On le disait, vous vous appelez les courageuses, ça dit tout, là.
Mais moi, j'ai été très émue, comme Noémie, par ce témoignage-là, parce que je trouve qu'elle a fait preuve d'un courage incroyable, un courage que moi, j'ai pas eu, personnellement, d'aller toute seule au front et de se battre contre sa communauté et de ne pas être crue visiblement au début et de voir son agresseur réélu. Pouf, je sais pas comment elle a fait pour passer à travers tout ça.
Toi, tu dis j'ai pas eu le courage de le faire.
Ben moi, j'ai pas eu le courage de dénoncer. Il a fallu que 9 femmes le fassent avant moi pour que j'embarque et que par solidarité que j'aille corroborer leur témoignage. Mais j'aurais jamais fait toute seule. J'aurais jamais eu ce courage. Jamais.
Pourquoi?
Mais parce que j'avais peur, parce que je pensais qu'on ne me croirait jamais, parce que c'était ma parole contre la sienne, parce qu'il
était puissant.
Parce que j'étais un homme de pouvoir, que je ne l'étais pas, parce que j'avais peur des représailles. Jamais, j'aurais osé, jamais. Et puis aussi parce que je me sentais coupable et que de toute façon, je me suis dit, j'avais jamais mis ça sous le tapis, c'était une histoire enfouie. Jamais j'aurais osé porter plainte. Maintenant, je trouve qu'elle l'a fait avec beaucoup de courage. Mais
les courageuses, vous en êtes où?
Ben,
dans
nous,
vos plaintes, là,
c'est ça,
dans l'affaire Ozon.
Oui, comme l'a dit Pénélope
McQuaid,
on est dans l'attente, on attend une réponse du DPCP. On est là, on n'a pas abandonné, on est toujours là, mais on est tenu au silence. Donc peut-être que les gens pensent qu'on a disparu, mais non, on est encore là et on fait confiance au processus de la justice. Même si on trouve
mais pendant ce temps-là, vous ne pouvez plus rien dire. C'est
absolument.
Ça qui est fascinant, hein, Monique.
Ouais,
dans
on est muselé,
oui. C'est qu'il n'y a plus personne. Nous, on avait un projet même de documentaire, puis finalement, ça ne peut pas arriver parce que personne ne peut parler. Donc,
et d'ailleurs, j'aurais voulu savoir, moi, en quoi, parce que Mme Lamarre disait que la loi avait changé, j'aurais voulu savoir en quoi la loi avait changé.
Et par rapport au fait qu'un élu puisse siéger alors qu'il est accusé ou reconnu coupable. Parce que dans ce cas-ci, Denis Lejeune pouvait continuer d'être maire de sa municipalité et c'est en ce sens que la loi a été changée. Donc, c'est quand même un pas en avant, là, tout à fait.
Ouais.
Et la moindre des choses, disons.
Là, écoute, ça se peut. Ouais. Sur l'histoire des courageuses et de toutes celles qui portent plainte, on parle, la direction des poursuites pénales et criminelles, c'est très long et pendant ce temps-là,
les victimes
ne peuvent plus rien dire. Souvent, tu le dis toi-même, il faut déplorer le fait qu'elles sont souvent dans le noir. Tu sais pas où tu vas, tu n'as pas de nouvelles.
Mais comme ce matin, un an sans retour du SPVM pour finalement réaliser qu'on est à la case départ.
On a quand même un message parce qu'on a un nouveau procureur maintenant. Hein. La première procureure est partie.
Bien sûr, dans votre cas, mais on
a été mis au courant que le dossier était encore en cours. Mais c'est tout.
Mais l'enquête sur Gilbert Ozon a débuté dès le 19 octobre 2017 et 2 enquêteurs y ont été assignés toute l'année. Il y a eu un travail qui a été fait. Ce que je veux dire, c'est que dans la foulée, bon nombre d'autres femmes ont porté plainte, même des hommes également. Et ces gens-là se retrouvent un an plus tard et l'enquête n'est pas encore amorcée. Alors non seulement on attend pour des enquêtes qui ont duré toute l'année et dont on n'a pas encore de dénouement, mais il y a aussi d'autres enquêtes qui ne sont pas encore commencées. Donc imaginez-vous
des... C'est long, Monique. Ils font quoi pendant ce temps-là?
Ils manquent de personnel.
Ils manquent de personnel. Parce que c'est sûr que là, il y a eu une hausse assez importante et ça, en soi, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les gens ont répondu à l'appel, ils se sont dit « je vais y aller ». Par contre, c'est pas rose une fois rendu dans le système et c'est là où on se rend compte, est-ce que le système était prêt pour accueillir ces plaintes-là? Bon nombre de gens à qui j'ai parlé aussi au cours des derniers mois, et c'était assez intéressant de le souligner ce matin, se sont lancés dans l'arène judiciaire, eux aussi, pour se faire dire finalement « écoutez, on ne portera pas d'accusation on veut vous protéger à travers ça, vous allez vous faire démolir par la défense. » Ce sont des phrases qu'on entend malheureusement très, très souvent.
Écoutez, au moment même où Monique Néron nous dit ça et on discute de ça, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais ce matin, Harvey Weinstein aux États-Unis était attendu en cours. Il y a un juge de New York là, qui devait évaluer sa demande pour faire rejeter en partie ou en totalité les accusations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui. C'est de lui qu'est parti finalement ce mouvement qui nous est arrivé ici. Eh bien, la nouvelle, puis on vous le dit, là, ça vient de sortir à l'instant. Le procureur de l'État de New York a décidé d'abandonner certaines des accusations d'agression sexuelle qui pesaient contre Harvey Weinstein. C'est un nouveau développement là, qui vient d'être annoncé au tribunal. Weinstein était là. Le juge a accepté de rejeter les allégations des l'une des 3 accusatrices, Lucia Evans.
Donc, c'est une,
votre réaction,
une,
en
des,
fait,
une des 3,
ouais,
c'est
voilà,
ça?
Ouais. Ce qu'elle disait, Mme Evans, c'était que Harvey Weinstein l'avait forcé à lui faire une fellation lors d'une réunion à son bureau en 2004. Ça a été rejeté par le juge.
Et ça va être de savoir, ouais, c'est ça. Le fardeau de la preuve en matière d'agression sexuelle,
il repose sur la victime.
Exactement. De quelle couleur étaient les rideaux, la couleur du mur, le t-shirt de l'individu en question. Plus ça remonte à loin, évidemment, plus ça devient excessivement complexe. Et c'est ça le cœur du problème, je crois. C'est vraiment le fameux fardeau.
Comme disait Melania Trump, je le disais tout à l'heure, qui demande des preuves tangibles. Qu'est-ce que tu veux?
Exactement.
Il n'y a que la parole.
Il faudrait qu'il y ait un témoin. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans la chambre à coucher.
Faudrait
là,
la
ou dans
robe
le bureau,
noire
là,
de Monica. Il faudrait la robe de Monica.
C'est ça.
Comme à l'époque.
Ou une caméra de surveillance.
Vous vous souvenez la robe de Monica Lewinsky qui avait du sperme sur sa fameuse robe qu'elle n'avait jamais fait nettoyer?
Le problème, après, c'est que ça va discréditer les autres allégations parce que la preuve n'était pas suffisante. Mais il faut le souligner que ce n'est pas parce que la preuve n'est pas suffisante pour obtenir une condamnation au criminel que l'événement n'a pas eu lieu. Tu sais, un acquittement ou l'abandon des poursuites, ça ne veut pas dire que la victime était menteuse.
Non, mais c'est pour ça aussi que les victimes,
mais ça regarde mal. T'sais.
C'est pour ça que les victimes ne portent pas plainte. C'est parce qu'on fait le procès de la victime. Ouais. C'est toujours notre procès qu'on fait et qu'on est toujours soupçonné de mentir. Donc, qui a envie d'aller se mettre dans ce guépier-là?
Mais quand un président des États-Unis qui l'avez-vous entendu, s'est excusé au nom de la nation?
Au nom de la nation. C'est à vomir. Puis on est revenu à la case départ. Finalement, un an plus tard, tout est à recommencer. C'est ça, moi, que j'en ai compris. Aux États-Unis, c'est avec ce que tu m'apprends aujourd'hui, c'est...
Et qui ridiculise la plaignante, justement, en ramenant sur la table une panoplie de clichés, qu'elle se souvient pas de tel ou qu'elle avait pris un verre. Ça, souvent, ça revient également. Ce qui est dommage, en fait, c'est que le DPCP dit actuellement seule la parole d'une victime suffit. Venez parler, et c'est ce qu'on a dit dans la foulée de moi aussi l'automne dernier, et malheureusement, on se rend compte que c'est pas tout à fait exact.
Ou que ça prend, comme dans le cas de Bill Cosby, 60 femmes contre la parole d'un homme. Alors, c'est ça,
ça prend une armée.
Deux procès dans le cas de Bill Cosby.
Et deux procès. Si on va en guerre, comme le disait Caroline Lamarre, je retiens cette expression tout à l'heure, si tu vas en guerre, t'es mieux d'avoir une armée.
Mais c'est parce pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est, nous, regroupés, parce que seuls, on savait qu'on avait aucune chance.
On parlait tout à l'heure, justement, avec Caroline, qui nous parlait d'agression qu'elle a vécue en milieu de travail contre un maire puissant qui a même pu siéger pendant une couple d'années, malgré le fait d'avoir été trouvé coupable. Tout de suite après la pause, on va parler à Nancy, qui, à elle, a été agressée par un collègue de travail. Ça se passait en milieu hospitalier. Ça a duré 7 mois. Et c'est un peu le même scénario. Après 7 mois, c'est elle qui était plus capable d'aller travailler. On lui parle tout de suite après la pause. Puis bien sûr, je veux prendre vos commentaires. J'aimerais ça entendre des gars, là, puis peut-être qu'on a l'air de filles là, qui sont féministes, trop féministes ce matin, puis un peu en furie. Vous auriez pas tort de penser ça, remarquez.
On a des bonnes raisons d'être en furie.
Il y a ça. Écoute, Weinstein, je pense qu'on va prendre une petite pause pour avaler ça et on revient. Mais j'aimerais vraiment vous entendre, messieurs, parce que vous êtes concernés. Je veux dire, le sondage, si on vous a posé des questions aussi. Comment vous voyez ça, les rapports hommes-femmes aujourd'hui? Plus compliqués qu'avant? Plus délicats qu'avant? 514-790-9850. On est en compagnie de Nancy qui a été agressée par un collègue de travail. Ça se passait dans son milieu hospitalier. Il y a eu plusieurs agressions. Tout ça a duré 7 mois. Et c'est une collègue, en fait, qui a fait réaliser à mon invité qu'elle se faisait abuser. Bonjour, Nancy.
Bonjour.
Vous avez dénoncé, d'ailleurs, votre agresseur à la police, à son employeur. L'homme en question a été congédié.
Oui.
Je trouve ça intéressant que ce soit une collègue qui vous ait fait réaliser à vous que c'était une situation d'agression que vous aviez vécue.
Oui, parce qu'au moment que j'étais plus capable, j'étais plus moi-même, j'étais tellement dissociée de moi-même que j'étais plus capable de réagir, de m'aider autrement. Et j'ai décidé d'en parler, ce qui est arrivé. Je voulais pas en parler premièrement, mais c'est arrivé par hasard. J'ai questionné parce que je voulais quitter mon emploi. Je voulais carrément partir de là. Je m'étais renseignée à elle comment ça fonctionne pour l'ancienneté, le salaire et tout ça. Puis elle a trouvé ça bizarre parce qu'elle savait très bien que j'adorais mon emploi. Puis tout bonnement, en même temps, elle me dit « Bon, moi, j'ai eu un nouvel emploi. Je vais faire une fête pour ça. Il y a certains collègues de l'unité qui vont être invités. » Moi, tout de suite, j'ai dit « Est-ce que lui va être là? Si oui, moi, je n'y participerai pas. » Elle m'a demandé pourquoi. Je voulais pas parler encore parce qu'on veut pas en parler. On veut pas. Même si c'est la meilleure chose à faire, on n'est pas prête à en parler. J'ai juste dit que je ne voulais plus jamais remettre les pieds là. Je ne voulais jamais le revoir. Puis elle a eu la goutte à l'oreille, la puce à l'oreille, je veux dire. Puis donc, on a accepté de se rencontrer sur un terrain neutre. On est allé dans un parc. Ça a pris un certain délai. J'ai fini par m'ouvrir. J'ai braillé ma vie. Je lui ai tout raconté. Puis c'est elle, elle a dit, Nancy, elle a dit, c'est pas normal. C'est des agressions et tu n'es pas la première à qui il le fait. Et c'est pour ça que je suis si en colère. Alors, c'est comme ça que j'ai réussi à en parler. Puis c'est elle alors qui m'a pris comme en charge pour le début du processus de m'emmener voir un médecin pour ma protection, m'arrêter du travail.
La police a fait son enquête aussi.
Oui, c'est ça. La police a retenu ma plainte, mon poste de quartier. Ensuite, ça a été transféré au crime majeur du Québec qui ont retenu ma plainte aussi. Monsieur, c'est ça, par le processus interne, il a été congédié. Mais il a été invité par les crimes majeurs du Québec à venir s'expliquer, venir témoigner, mais il a décidé de garder son droit au silence.
Et donc qu'est-ce qui est arrivé, finalement?
Eux n'ont pas eu plus de jus, pas eu plus d'informations, donc ils ont transféré mon dossier au DPCP.
Et il n'y a pas d'accusations qui ont été déposées, je pense. Hein?
Oh mon Dieu, non, je me suis tellement fait ramasser par le DPCP, ça n'a pas de bon sens. Oh. Ça a ajouté un trauma par-dessus celui que je vivais.
Ramasser?
Et je suis encore avec ça.
Ramasser, oh, oui, vous dites, Nancy?
Ah oui, ramasser, c'est carrément le mot. C'est on nous accuse, on fait notre, comme on, j'ai entendu quelqu'un dire ça auparavant, on fait notre propre procès à nous, la victime. On fait pas le procès de lui qui a un problème et de lui qui a causé tout ça, on fait notre procès à nous. Qu'est-ce qu'on portait? Pourquoi qu'on se parfumait? On devait pas être la seule belle fille sur l'unité. Pourquoi j'ai pas parlé avant? À mon âge, j'aurais dû savoir mieux. C'est toutes des choses que la procureure me dit. Puis avant de me dire tout ça, elle me dit qu'elle a visionné ma déposition vidéo, qu'elle me croit, qu'elle valide qu'il y a eu des agressions, qu'il y a eu de l'emprise. Mais elle m'explique aussi que même si tout le monde me croit, même si le juge me croit, il existe le doute raisonnable. Et pour le doute raisonnable, elle m'enverra pas devant un juge plaider ma cause parce que je vais me faire démolir. Alors, on m'a laissé partir sans protection, sans interdiction de contact.
Et après, on se demande pourquoi les victimes portent pas plainte. Après, on se demande pourquoi les victimes portent pas plainte pour ça, exactement pour ça.
Elle m'a dit que je devais pas avoir une très forte estime de moi-même pour avoir subi et enduré tout ça pendant 7 mois et que je devrais aller suivre une thérapie.
Ben oui, c'est sûr.
C'est effrayant. Effrayant.
Et c'est une procureure en plus?
Oui, c'est une procureure. Et en plus, quand j'ai vu que ça marche plus, là, je lui ai demandé, allez-vous aller interroger l'infirmière qui a fait une déposition au crime majeur comme quoi qu'elle dit que oui, ça s'est produit auparavant, qu'elle est au courant, que les petits boss, si je peux dire, de l'unité n'ont jamais fait de plainte, ils ont juste donné des tapes de ses doigts à monsieur. Ils ont dit non. Ils ont dit ça donne rien. Ils ont dit il y a rien qui va se passer.
Donc il n'y aura pas d'accusation déposée, c'est réglé,
non,
là.
C'est réglé, il n'y en a pas eu.
C'est réglé. Puis en plus, j'étais pas accompagnée de mon agent de la CAVAC, puisqu'elle me dit ça se fait en 2 étapes normalement. Avant de te donner le verdict, ils nous demandent de vous accompagner pour soit recevoir le choc ou la nouvelle. Puis moi, tout fait ça dans le même rendez-vous là.
Vous étiez toute seule. C'était il y a combien de temps, Nancy, ça?
C'est en janvier 2017.
Donc c'était il y a un an et demi. Vous n'avez pas repris le travail, hein, je pense, encore?
Non, je suis encore en arrêt de travail. On m'a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique. Présentement, j'ai une thérapie depuis 2 ans. Depuis le processus, j'en suis à mon 6e médecin. Il n'y a pas un médecin qui était comme capable de gérer la situation. Donc, on me refilait à un me refilait à l'autre. J'ai jamais eu de soins stables, appropriés. Ça fait pendant les 21 premiers mois, là, ça fait juste à peu près 4 mois que j'ai un médecin de famille qui m'a pris en charge. Donc, j'ai juste eu ma psychologue qui était une relation stable professionnelle pour m'aider dans tout ce processus-là. Et j'ai aussi une thérapie EMO que je suis en train de faire qui est semblable au EMDR, là, afin de m'aider à retrouver une qualité de vie, puis tout ça.
Oui. Pour essayer d'oublier, finalement, là, c'est le...
Ah, on n'oubliera jamais.
Non, on n'oubliera jamais, mais...
C'est le EMDR, là, c'est le Eye Movement, pour essayer d'effacer certaines images, mais bon, ça marche pas tout le temps, puis c'est difficile à effacer ça. Oui. Quand on entend ça, Patricia, ce que qu'est-ce que ça ce dit? Parce que là, c'est ça qui vous attend, les courageuses.
Mais ce que je retiens de ce témoignage, puis on est dans ce processus, nous aussi, c'est que Nancy dit, on a déjà vécu un traumatisme et on en vit un autre.
Ouais.
Et
alors, toute seule.
Toute seule. Et c'est, on sort de ce processus-là encore plus démoli qu'on l'était avant d'engager des poursuites. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qu'il faut changer. Parce que c'est pas normal qu'une victime soit encore plus démolie après avoir porté plainte qu'avant de le faire. On attend de la justice qu'elle vienne à notre secours. Mais là, on nous enfonce encore plus dans une dépression, parce que je pense que c'est ce que vous vivez, une dépression, et c'est difficile d'en sortir, et on se retrouve toute seule là-dedans. Je comprends pas comment ça se fait que par exemple, on n'ait pas le droit de contre-interroger l'agresseur. Pourquoi le système est fait comme ça? Alors, on se retrouve toute seule à être pointée du doigt, mais l'autre s'en sort sans avoir à témoigner. Pourquoi?
Nancy, merci.
Quand moi, j'ai demandé la question à ma procureure, justement, pourquoi lui ne se faisait pas interroger, pourquoi personne ne l'achalait, lui, que c'était comme c'est moi qui ai des comptes à rendre, je me suis fait dire que je me victimisais. Ça, c'est resté ancré dans ma mémoire. Ça ne part pas.
C'est épouvantable. C'est une autre agression. C'est une double
Nancy,
agression.
Écoutez, merci beaucoup de votre témoignage. Vous êtes loin d'être une victime, là.
Donc, je suis une survivante.
Une autre héroïne.
Une autre courageuse.
Merci beaucoup, Nancy. Merci. On s'arrête ici. On revient tout de suite après. On a Félix avec nous. Bonjour, Félix.
Bonjour.
Vous entendez notre conversation. Comment vous vous sentez comme gars là-dedans?
Moi, des témoignages comme celui de Nancy juste avant la pause, ça me fâche, là, sans aucun bon sens. J'ai aucune solidarité masculine envers ces agresseurs-là. Puis je généralise, là, parce que c'est en grande majeure partie des agressions, c'est les hommes qui les perpétuent. Moi, ça me sidère que ces gens-là puissent continuer en toute impunité à vivre leur vie sans qu'il y ait aucune conséquence. Puis ça me fait rire d'entendre des hommes dire « Ah, mais là, c'est tellement difficile d'être un homme aujourd'hui. » C'est tellement ridicule comme commentaire. Obtenir un consentement, il me semble que ça va de soi, là, qu'on soit en 1920, qu'on soit en 2018, c'est le même concept. Là.
Ouais.
C'est fascinant de voir ce comportement-là. Et si, parce que la grande majorité des agressions sont commises par des hommes, mais c'est pas la grande majorité des hommes qui commettent des agressions. Donc, à un moment donné, nous, comme hommes, il faut qu'on arrête de tolérer ce genre de comportement-là. Il faut qu'on arrête de défendre aussi ces agresseurs-là qui sont marginaux et qui ont des comportements très répréhensibles.
Ouais, mais vous avez tellement raison, tellement raison. Est-ce que les gars qui vous entourent pensent comme vous?
J'aimerais dire oui. C'est aussi un travail de tous les instants de convaincre les gens de leur rappeler ça. Moi, j'ai la chance d'évoluer dans un milieu, je suis dans le milieu syndical, donc on est plus conscientisé à ce genre de choses-là. J'évolue dans des milieux de gauche aussi, où est-ce que pour nous, l'importance de l'égalité homme-femme, ça passe par ça aussi. L'absence de consentement et les agressions, c'est un rapport de pouvoir qui s'exerce aussi. Non?
Ouais, c'est
les gens qui vont pas chercher le consentement parce qu'ils veulent dominer en quelque part. Donc, quand on recherche l'égalité entre les genres, ça va de soi qu'il y a une recherche de consentement, mais la grande majorité des hommes que je côtoie, j'ai de la misère à les convaincre de ça, mais c'est un travail. Faut pas lâcher, faut pas hésiter à dénoncer ces comportements-là.
Merci beaucoup, Félix. Vous avez été la voix masculine. Et c'est une voix qui est porteuse d'espoir. Oui. Je trouve ça vraiment bien. Merci beaucoup. Il y avait Mathieu à qui on a failli parler. Je pense qu'il allait un peu dans le même sens aussi. Je vous passe tous les commentaires de certains qui ont une tendance à être un peu mononcle dans le... Mais c'est pas grave, on avance pareil.
On avance.
Merci d'avoir parti le bal.
Ben, ça me fait plaisir. Puis si je peux rebondir sur les propos de l'intervenant précédent, dans le sondage, il y a 77% des hommes qui disent que désormais ils vont être plus portés à dénoncer des gestes inappropriés dont ils sont témoins.
Ouais.
Et ça, c'est essentiel. On a besoin de vous, les gars, pour rappeler à l'ordre
vos collègues et vos amis.
Merci beaucoup, Monique. Tu es là-dessus, bien sûr. Tu
absolument. La bataille ne fait que commencer.
La courageuse est-elle découragée?
Non, pas du tout. Okay. Mais j'ai reçu beaucoup de messages de soutien de mes collègues masculins au travail. Puis moi, je suis plutôt optimiste. Et puis, je pense que ce combat-là, il n'est pas pour diviser les hommes et les femmes. Il est au contraire pour nous rassembler et faire une société meilleure. Tout le monde va en sortir gagnant.
C'est bien dit.
Oui, c'est vrai. Et merci beaucoup, Patricia Tulane, Noémie Mercier, merci, Monique Néron.
Merci
bien. Et on va suivre, vous allez entendre dans nos bulletins de nouvelles la nouvelle sur Harvey Weinstein. Je vous rappelle que finalement, le juge de l'État de New York a décidé d'abandonner certaines des accusations d'agression sexuelle qui pesaient contre lui. On se retrouve tout de suite après les nouvelles.